C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Kaku.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui analyse l'impact des mots, des discours, du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons une thématique brûlante qui fait l'actualité. Nous allons parler de la rhétorique guerrière et ses conséquences. Avec l'entrée à Goma des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, les discours belliqueux se multiplient dans la région des Grands Lacs. Ils sont portés par les autorités, les diplomates, les médias et même les citoyens sur les réseaux sociaux, Babel.
Effectivement, Poli, en temps de guerre, il est évident que le langage se durcisse. Ce temps martial sert à mobiliser, à dénoncer l'adversaire, à renforcer l'unité nationale et à galvaniser les troupes. Mais jusqu'où peut-on aller sans franchir la ligne rouge? Comment éviter que l'exaltation patriotique ne se transforme en discours de haine, en désignation d'un ennemi collectif, voire en appel à la violence contre certaines communautés?
Des questions légitimes, hein, Babel, car les mots ont un impact réel sur le terrain. Un discours guerrier peut mobiliser la population et les forces de sécurité pour protéger le pays, vous l'avez dit, mais il peut aussi susciter de l'inquiétude, de la peur dans certains cas. Poussée à l'extrême, une rhétorique guerrière peut également radicaliser une partie de la population, alimentant des tensions et de la violence indiscriminée. Alors quelle est l'origine des discours bellicistes? Comment se justifie l'usage de ce type de langage? Et surtout, quelles sont les conséquences de ces discours guerriers? C'est ce que nous allons décortiquer avec nos deux invités.
Nous avons avec nous Odilon Malekira. Il est coordonnateur adjoint de l'association Action Citoyenne de lutte contre les discours de haine. Bonjour monsieur Malekira.
Bonjour madame.
Et merci d'être avec nous.
Merci.
Également avec nous, hein, Manassé Mabondo. Il est analyste politique au sein du Politoscope, une plateforme qui analyse la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Bonjour Manassé Mabondo.
Bonjour Monsieur Poli, bonjour à tous les auditeurs.
Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de commencer cet échange, nous vous proposons d'écouter un premier sketch radiophonique. Cette scène nous plonge au cœur d'un milieu universitaire avec des étudiants. Dans un contexte de tension lié à une compétition sportive, ils discutent entre eux en recourant à un langage de plus en plus agressif. On écoute.
Quelle humiliation ça! Encore un match perdu! Encore un match perdu!
Que les membres de l'équipe adverse ne dorment pas sur les lauriers. On ne les laissera pas faire.
S'il te plaît.
On va gagner ce championnat.
S'il te plaît, oui. Ah, calme-toi. Vous n'allez pas en faire toute une histoire quand même. Juste parce que notre équipe vient de perdre ses matchs.
Hein?
Oui.
Sérieusement, Kitoko?
Oui.
Oh. C'est tout ce que tu as à dire face à cette agression humiliante que notre équipe vient de subir?
Maman, c'est vraiment juste un match perdu. Et les championnats continuent.
Juste un match perdu?
Oh.
Mais tu es de quel côté,
mais
toi?
Mais championnats,
en fait,
continuent. Bon, mais c'est...
Donc, attends. Toi, ça te fait rien de voir que nos ennemis de tous les jours, de toujours, viennent de remporter la victoire contre nous? Hein? En plus, ils ne les méritaient même pas.
Écoute.
Comme d'habitude, écoute, ils ont triché.
Certainement.
Oui, écoute.
Non, Kitoko.
Oh.
Toi, tu m'écoutes. Ça, c'est un assaut contre notre honneur.
Exactement. C'est humiliant, ça.
J'ai dit, hein, si tu penses que l'autre équipe n'a pas respecté les règles comme prévu, mais mieux vaut soumettre la question au comité d'arbitrage.
Mais, qu'est-ce que tu racontes?
Oh.
Au lieu de m'aider à mobiliser les autres pour qu'on organise la résistance...
Quelle résistance?
T'es en train de me parler du comité d'arbitrage?
Papa.
Nous devons les écraser.
Et
nous ne sommes pas des poltrons qui peuvent se laisser voler la victoire.
Écoute, Rambo, je te conseille de simplement reconnaître ta défaite. Les vrais membres de notre équipe ne sont pas prêts à s'arrêter avant de vous investir définitivement du championnat. Je vous l'ai dit.
Nous devons les écraser, nous ne sommes pas des poltrons qui peuvent se laisser voler la victoire, lance l'un des étudiants. Odilon Malekira, ma première question est pour vous, hein. Tout au long de l'histoire humaine, quelles situations sécuritaires ont permis et justifié le recours à une rhétorique de guerre ?
De toutes les histoires de guerre, comme d'entrée des jeux, vous l'aviez énoncé, des fois les discours viennent pour galvaniser les troupes, pour justement donner cet élan d'unité nationale et tout ça. Mais il arrive des fois que les tenanciers ou les auteurs de ces discours franchissent les rubicons et que ces discours se transforment en incitation de haine. Les situations qui ont permis à recourir à une rhétorique de guerre sont nombreuses. Sont nombreuses. Parce que là, nous parlons de la RDC. Nous pouvons citer le cas de la RDC où nous vivons une agression qu'on peut qualifier de barbare. Et le contexte de la RDC, par la voie de la légitime défense, l'autorité établie peut recourir à un discours mobilisateur afin d'éveiller la conscience et puis prendre les dispositions pour barrer la route à l'ennemi. En ce moment-là, on peut recourir à cette rhétorique-là parce qu'il s'agit d'une menace existentielle qui est en face. Pour le cas de notre pays, c'est justement, on sait qu'il y a un plan d'émiettement du pays. Et ce plan d'émiettement met à mal l'unité nationale. Et tout naturellement, une autorité, un patriote, ne peut que recourir à ce rhétorique-là.
Alors, comment est-ce que la population interprète ce type de discours guerrier ? Est-ce que ce langage est de nature à rassurer ou plutôt à faire peur ?
Bon, le choix des mots est très important lorsqu'on on est en train de donner ce discours-là. Pas seulement le choix de mots, l'auteur de ces discours. Parce que aujourd'hui, la plus grande crainte, la plus grande faiblesse, c'est que c'est tout le monde qui, à travers son téléphone, peut prendre un message qui a été véhiculé, qui vient par exemple du chef de l'État, transformer ce message-là, le diluer dans la population, en faire une mauvaise interprétation. Et lorsque les mots sont mal choisis, vous voyez, la population peut mal comprendre comment le contexte, le contour de ce message-là et basculer dans des violences.
Merci, Monsieur Odila Malekera. Je tourne à présent vers vous, Monsieur Manassé Mabondo. D'après vous, qui est autorisé à lancer des paroles de guerre ? Est-ce les hautes autorités d'un pays, comme Monsieur Malekera l'a dit ? Est-ce les militaires ou chaque citoyen peut le faire, peut se lancer dans une rhétorique guerrière ?
Dans une période de guerre, dans une période d'antagonisme, il est assez important que ce soit l'État qui soit comme la personne ou la bouche autorisée à pouvoir lancer des messages guerriers. Pourquoi ? Parce que lorsque l'État parle, lorsque l'État se prononce, la communication, elle est plus contrôlée, plus filtrée, et elle est en tout cas assez orientée. Lorsque c'est le citoyen lambda qui prend les devants, on ne sait pas maîtriser les conséquences de la communication. Ça peut aller dans tous les sens. Lorsque les autorités communiquent, il y a une certaine façon, une certaine manière, une certaine ligne qu'il faut suivre dans la communication. Et dans une période de guerre, pour éviter des dérapages sociétals, il est important à l'État de pouvoir communiquer dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a cette rhétorique des infiltrés rwandais qui seraient sur le sol congolais, à Kinshasa particulièrement. Mais vous allez voir des gens qui, à cause de cette rhétorique, peuvent se lancer dans des actes de violence. Et si l'État ne communique pas de plus en plus, on peut entrer dans une situation qu'on ne pourra pas contrôler à la longue.
Merci Manassé Mabondo pour ces analyses. Passons maintenant à un deuxième extrait de notre sketch. Nous retrouvons nos amis les étudiants qui expérimentent cette fois-ci les conséquences de l'usage d'un langage guerrier. On écoute.
On va vous inverser définitivement du championnat.
T'as dit quoi?
Tu m'as bien entendu. Les combats pour restaurer la justice a commencé.
et nous combattrons jusqu'au bout. Si vous croyez que nous allons laisser des imposteurs comme vous s'emparer du championnat, vous vous trompez énormément.
Vous vous trompez énormément.
Ne t'en fais pas. On ne comptait même pas te les demander gentiment. Nous allons seulement reprendre Manu Militaire et ce qui est à nous.
Ce qui est à vous?
Oui, c'est à nous. C'est à nous.
Les amis, calmez-vous.
Comment ça?
Vous croyez vraiment que c'est en utilisant ce langage de guerre, que vous allez trouver la solution pour ces championnats? Non.
Nous allons lancer un appel à tous les membres de notre équipe pour qu'ensemble on résiste à cette guerre, à cette agression. Mais rien ne va arrêter notre croisade avant qu'on vous invente du championnat. Ça, c'est inacceptable.
Je préfère mourir en défendant l'honneur de notre équipe. Plutôt que d'être humilié à ce
point.
Je préfère.
Qui t'a mappé?
Il va encore
gagner son championnat. Il est malade, c'est ça.
S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît.
Nous allons seulement reprendre Manu Militari, ce qui est à nous, menace l'un des étudiants. Odilon Malekira, la rhétorique guerrière est conçue pour menacer, dénoncer l'adversaire, mais aussi galvaniser et mobiliser les troupes, la population. Quelles sont les conséquences de ce discours guerrier sur l'attitude de la population, selon vous?
Comme je l'ai dit précédemment, lorsque ce discours est mal dilué et que les mots sont très mal choisis, la population risque de s'adonner à des violences et à des pratiques criminelles et l'irrespect. On va tout de suite constater l'irrespect des droits de l'homme et tout ce qui va avec. Vous savez, à l'ère du numérique, nous avons tout le monde qui peut créer un contenu. Parce que vient implémenter les discours de haine, ce sont les contenus créés pour désinformer la population. Là, par exemple, je vais illustrer cela par un cas très récent ici à Kinshasa, où un homme a été arrêté, encellé et accusé d'être rwandais, tutsi, infiltré à cause du faciès. Et du moment où on a dit que Kinshasa, par exemple, est infiltré et qu'il y a des Rwandais un peu partout à Kinshasa, lorsqu'on trouve quelqu'un qui soit Nandé, qui soit Yaka, qu'il soit je ne sais d'où, de tous les coins du Congo, lorsqu'il présente une certaine morphologie, lorsqu'il présente certains traits de langage, directement, on peut les qualifier de Rwandais parce que le message a été mal dilué dans la population et la population va se déverser sur cet innocent et lui donner la mort, vu que la tension est déjà palpable. Voilà les conséquences. C'est-à-dire, au moment où tout le monde peut manipuler un téléphone, peut créer un contenu dans le but de désinformer, c'est ça le risque. C'est ça le risque que nous sommes en train de courir, parce que même la publication de tous ces contenus n'est pas contrôlée. C'est-à-dire, à un certain niveau, l'État doit être regardant, voir qui publie quoi en ce moment, et pour ne pas permettre justement que la situation se généralise et qu'on ait beaucoup des dommages collatéraux. Il y a le contenu, il y a l'auteur, l'auteur de ce contenu-là, parce que nous sommes en train de constater, depuis que Goma est tombé, par exemple, nous avions vu que même certaines autorités ont perdu, je dirais, un certain calme et commentent dans tous les sens, non seulement les autorités, nous avons aussi les médias. Les médias qui ont un rôle à jouer dans cette, ils ont un rôle à jouer pour qu'il n'y ait pas prolifération des discours de haine. Ce même média-là arrive à prendre ces discours, déformer ces contenus visant à désinformer, et les médias accrédités arrivent à publier ces messages. Alors, dès lors, on tombe sur un média qui d'antan on qualifiait que c'était un, on pensait que c'était un média crédible, et ce média prend un fake news et le publie, et cette publication tombe dans la population, et vous voyez déjà l'interprétation que la population en fera. Mmh. C'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde doit d'abord filtrer ce qu'il doit publier, les médias, les autorités faire le choix des mots, et la population aussi, éviter à créer des contenus qui ne reflètent pas la réalité.
Merci Odilon Malekera pour cette intervention. Je me tourne à nouveau vers vous, Manassé Mabondo. En parallèle aux propos belliqueux lancés par certains officiels, de plus en plus de gens s'expriment de manière agressive sur les réseaux sociaux, y compris de manière anonyme. Avec quelles conséquences ces gens s'expriment-ils sur cette plateforme ? Vous qui justement analysez au niveau du Politoscope le niveau de cyberviolence verbale en République démocratique du Congo.
L'évolution, pour moi, elle est assez inquiétante par rapport à la rhétorique de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y a, selon moi, une très très forte influence de trolls rwandais sur les débats publics congolais. En tout cas, il y a une très forte influence de trolls rwandais sur le débat public congolais. Loin de moi l'intention de faire l'apologie du Rwanda ici, mais je vous dis que le Rwanda est très fort en armée numérique. Et cette armée numérique se lance dans la désinformation, une désinformation que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont très, 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 très forts en désinformation. En tout cas, actuellement, ça va dans tous les sens. Il y avait un petit accalmé avant le processus inachevé de Luanda ici, qui était entaché par une mauvaise foi du Rwanda. Et lorsque le processus n'a pas été achevé par la non-venue du président Paul Kagame, c'est allé dans tous les sens, la rhétorique allait dans tous les sens. Et à partir de là, ça a commencé à chauffer de tous les deux côtés. Et maintenant que Goma est en guerre, alors imaginez la suite. Donc, vraiment, je pense que le gouvernement congolais a peut-être compris ça. C'est pourquoi le gouvernement a peut-être gelé l'accès à certaines plateformes digitales, comme peut-être X, pour pouvoir canaliser cette vague de désinformation de trolls rwandais.
Merci Manassé Mabondo pour ces explications. Passons maintenant à notre dernier sketch radiophonique. On va voir comment les étudiants parviennent finalement à désamorcer les tensions et tirer les leçons de leur rhétorique guerrière. On écoute.
Lui s'est mis, s'il vous plaît.
S'il vous plaît quoi? Tu vas pas qu'il parle beaucoup.
Arrêtez, non.
Amani, fais attention à toi.
Fais attention à toi.
Toi, fais attention à toi.
Attends, Tito, vous l'avez entendu?
Pardon.
Il ose nous larguer après que leur équipe ait triché pour gagner la victoire.
Je te le répète. C'est fini le temps où vous avez monopolisé les championnats.
Moi, je te le répète. Arrête d'utiliser ce langage. Arrête d'utiliser ce langage.
C'est fini.
Il s'est pas pour qui celui-là. Il est qui même? Tu es qui toi?
Non, mais arrêtez. Arrêtez ça. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte vraiment quand Mbozo est à la table de Moko, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce langage de guerre vous utilisez tous les deux peut être dangereux?
Dangereux en quoi?
Oh.
Mais quand on est attaqué, on se défend, non?
Et nous alors,
vous
devons défendre l'honneur de notre équipe.
Je dis,
c'est
pas négociable.
Attends. Si les membres de vos deux équipes la suivent votre langage et qu'ils sont traîtus, dites-moi, vous croyez que vous aurez vraiment résolu le problème? Qui allait gagner ces fameux championnats? Qui allait gagner ces fameux championnats si vos deux équipes se trouvent tous les deux à l'hôpital à cause des blessures? Si on a normalement gagné le match en Pécasse, donc est toujours à Boïb.
Écoute, Kito Komen nous qui a raison. Est-ce que un œil pour un œil, ça nous rend tous aveugles en fait?
Oui. Ne croyez-vous pas qu'on devait plutôt essayer de voir ensemble où se trouve le vrai problème à l'origine du conflit entre nos deux équipes, au lieu de rivaliser par le langage guerrier qui ne fera qu'aggraver les choses?
Euh, Un œil pour un œil, ça nous rend tous aveugles, hein, finit par conclure l'un des étudiants. Alors Odilon Malekera, en période de guerre, existe-t-il une manière d'encourager la résilience et la résistance de la population contre ceux qui sont perçus comme les ennemis, sans forcément recourir à un langage qui appelle à la haine?
Oui, justement, ça dépend de l'attitude de ceux-là qui doivent communiquer à la population. Mmh. La population ne fera que repercuter ce qu'elle a mal conçu. Mmh. Il en va de la responsabilité de nos autorités, des médias, des chefs de confession religieuse et de toutes les structures de la société civile d'encourager la population à ne pas recourir au discours de haine. C'est d'ailleurs notre position, nous, en tant qu'ACLDH, Action citoyenne de lutte contre le discours de haine. Nous décourageons le recours au discours de la haine parce que ce discours, à la fin, devient improductif. Mmh. Et elle cristallise les dissensions internes. Mmh. Vous avez une petite illustration. Savez-vous qu'il y a des personnes qui vivent ici à Kinshasa qui pensent que toute personne venant de l'Est et qui parle Swahili est une personne assimilable à un Rwandais. Mmh. La manière de communiquer joue un rôle important. Le message, le contenu du message doit être choisi pour ne pas basculer finalement, parce qu'attention, le risque d'un discours, il faut faire ces distinguos-là, un discours mobilisateur n'est pas nécessairement un discours de haine. Un discours mobilisateur a un objectif de mobiliser une population face à une menace existentielle. Un discours de haine, c'est un discours stéréotypé qui vise une certaine maltraitance d'une certaine catégorie. Lorsque le discours mobilisateur bascule en discours de haine, cela peut prouver qu'il y a une certaine lacune dans l'organisation.
Justement, comment éviter de franchir cette ligne rouge concrètement?
Le contrôle. Le contrôle. Les autorités, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, c'est des autorités qu'il s'agit, qui doivent tenir ces discours mobilisateurs. Comme nous vivons dans un pays où nous avons pléthore des partis politiques, je voudrais ici attirer l'attention sur ce qui se raconte dans différents quartiers généraux de partis politiques. Et c'est de là que le discours est parfois mal interprété et les chefs des partis politiques, peut-être pour besoin de positionnement ou de se faire une santé politique, recourent à ce discours et amènent les masses à ériger des barrières, à faire des tracts, même domiciliaires, et on arrive à avoir des bavures, on arrive à avoir des dérapages. C'est alors que vous verrez un Ande qui parle Swahili, mais qui a une morphologie tuti, est tué parce qu'on pense qu'il est traître rwandais. Et je crois que c'est à nos autorités de jouer cette carte-là, de renforcer les instruments de contrôle. Les médias doivent être contrôlés, ce qu'ils publient en temps réel, faire un monitoring de ce que les médias publient, et je pense que c'est parmi les stratégies pour ne pas basculer vers ce cap-là.
Vous parlez de contrôle des médias et autres. Est-ce que on va pas arriver aussi au muselage en le faisant?
Bon, le muselage, je ne pense pas, parce que nous sommes en temps de guerre. Et les médias doivent aussi, la ligne éditoriale doit, d'une presse par exemple, elle doit savoir ce qu'elle publie en temps de guerre. Parce qu'en temps de guerre, on ne publie pas n'importe quoi. Et je crois que c'est ça qui est là, qui joue son rôle. On a vu certains médias qui ont été interpellés, et nous encourageons cela. Voilà, les médias doivent aussi prendre conscience.
Merci pour ces précisions, hein, Monsieur Odion Malekera. Nous tournons vers vous, Monsieur Manassé Mabondo. En règle générale, les conflits se terminent soit par des voies diplomatiques, soit par des moyens militaires. Quel est, d'après vous, le langage qui est susceptible de donner des résultats pour arriver à une situation de paix durable dans la région des Grands Lacs? Est-ce celui de la guerre ou plutôt celui de la diplomatie?
Ici, je répondrai en tant que politologue. L'environnement international est un environnement anarchique. Il y a un principe qui dit, on négocie avec le plus fort, on se bat avec les égaux et on écrase les faibles. Alors, devant ce dilemme, devant cette guerre, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire? La première des choses, c'est que le gouvernement congolais doit mettre en place des mécanismes d'autodéfense. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle est une guerre essentiellement basée sur des matières stratégiques, des minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium. Mais demain, ça ne sera pas ça. La RDC possède plus de 50% d'eau douce. Demain, ça sera la guerre de l'eau. Donc, le gouvernement congolais doit comprendre, doit être un gouvernement prospectiviste qui doit mettre en place des mécanismes d'autodéfense qui pourront permettre à la RDC d'assurer son intégrité territoriale. Et deuxièmement, privilégier aussi la voie de la diplomatie. Parce que vous le voulez ou pas, même si une guerre fait 30 ans, même dans l'histoire politique du monde, la diplomatie a toujours accompagné les guerres. Même à la fin, on peut toujours négocier. Mais ici, le gouvernement congolais doit mettre en place des mécanismes d'autodéfense qui pourront permettre à ce que l'intégrité territoriale de la RDC soit assurée et en même temps continuer dans la voie diplomatique pour pouvoir peut-être trouver des solutions qui ne vont pas enflammer, qui ne vont pas permettre à ce que les gens soient tués encore de plus en plus.
Voilà qui nous permet de conclure cet échange. Nous retenons que les mots ne sont jamais neutres. En période de guerre, ils peuvent être des outils puissants pour mobiliser et unir, mais aussi des armes redoutables qui peuvent enflammer les tensions et fracturer durablement les communautés, Babel.
Absolument, Pauli. Entre les discours de mobilisation et les discours de haine, la frontière est parfois fine, mais il est important de ne pas la franchir.
Se montrer vigilant face aux discours belliqueux émis par les acteurs en conflit, développer l'esprit critique, rejeter les appels à la haine et exiger des responsables politiques et médiatiques qu'ils usent d'un langage responsable, voilà ce que chacun d'entre nous peut faire pour limiter les dérapages au niveau de la sous-région des Grands Lacs, Babel.
Nous disons merci à nos invités Manassé Mabondo et Odilon Malekera pour leur participation à cette réflexion et pour la pertinence de leurs analyses. Merci également à Hippolyte Kapanga qui nous a accompagnés du côté de la régie technique et surtout un grand merci à vous chers auditeurs et auditrices pour votre attention et votre fidélité.
C'est Le Ton qui fait la panique est un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarrierdc.net.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore une fois et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'est Le Temps qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
La panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.